Le progrès chrétien de George Whitehead, partie X, suite. Le roi Jacques y succède à son frère défunt sur le trône d'Angleterre. Le peuple appelé Quakers demeura soumis aux persécutions, aux oppressions et aux souffrances, comme il a été dit, lorsque le roi Charles y mourut et que son frère, le duc d'York, lui succéda, étant proclamé roi. Une crainte et une question s'emparèrent de beaucoup quant à ce qu'il adviendrait désormais des dicides protestants, soit quant à la continuation de cette persécution, qui se poursuivit encore quelque temps, soit, plus encore, la crainte du danger du papisme, puisque le roi était ouvertement catholique romain. Dans une considération sérieuse de ces choses, j'eus très vivement, tôt un matin du premier jour, l'ouverture que le Seigneur serait bon envers son peuple et qu'ils auraient du répit, même sous le règne de ce roi, et j'en informai de même nos frères à notre réunion du matin pour leur consolation. Ainsi, par la bonne main du Seigneur notre Dieu, il arriva que, après que nous eûmes fait un grand effort pour faire comprendre au roi, de façon sensible, l'ampleur de nos souffrances et de notre persécution de plusieurs manières, y compris le grand nombre de prisonniers, les grands ravages et dépouillements commis par les indicateurs, et par les huissiers sur les procédures de l'échiquier, etc. Et tout cela à cause de nos consciences délicates et de l'exercice de celles-ci envers le Dieu Tout-Puissant. Une fois le roi rendu conscient de cela et l'ayant compris, nous obtînmes peu à peu du soulagement pour les opprimer et les affliger. Je puis rapporter en quelque mesure quels soins, quelle diligence et quelles méthodes furent employées et mis en œuvre pour obtenir ce résultat de soulagement, et comment il fut accordé et obtenu. J'ai été disposé à saisir toutes les occasions, sous la providence divine, de faire tout le bien possible aux amis qui souffraient, selon que le Seigneur a bien voulu me donner les moyens, ce qu'il a souvent fait, béni soit son nom. Afin d'aider le roi à comprendre les lourdes souffrances imméritées, les persécutions et les oppressions auxquelles son frère, le roi Charles Yi, nous avait laissé exposer, et qui étaient encore poursuivis, renouvelés et aggravés contre nous, nos chers amis Gilbert Lattet, Alexandre Poque et moi-même lui présentâmes le cas de 1460 de nos amis alors prisonniers. Notre bien-aimé, ami Robert Barclay et moi-même adressâmes une demande au roi pour la liberté de nos consciences, afin d'être délivrés de toutes ces sévères persécutions auxquelles nous étions exposés et sous lesquelles nous souffrions. Ayant alors une large et libre occasion de m'entretenir avec le roi sur ce point, et de lui rappeler la déclaration du roi Charles Yi, en faveur de la liberté des consciences délicates, en 1672. À la suite de nouvelles sollicitations et d'une pétition, on obtint du roi une commission, adressée à ce Robert Sawyer, procureur général, pour délivrer des mandats afin de relâcher, des prisons d'Angleterre et du pays de Galles, autant de nos amis que le roi pouvait légalement libérer, étant détenus sur procédure comme ses prisonniers, à quoi un grand nombre furent libérés. Tout cela, le Seigneur me donna d'en solliciter et d'en poursuivre avec ardeur l'exécution, avec une grande diligence, jusqu'à ce que nos amis fussent relâchés. Les indicateurs, continuant avec empressement à piller et ravager nos biens, cherchant ainsi notre ruine, en raison de nos innocentes réunions religieuses qu'ils traquaient et hantaient de lieu en lieu, en ville et à la campagne, je fus fortement pressé en esprit de porter plainte au roi, par voie de pétition, contre eux et leurs procédés injustes et sans fondement à notre encontre. Alors le roi donna ordre de convoquer ses indicateurs dans et autour de Londres, afin qu'ils comparaissent devant deux de ses commissaires, désignés pour entendre et examiner nos plaintes face à face, afin que l'on voit comment leur pillage excessif des biens de nos amis, leurs faux témoignages et leurs parjures, comme beaucoup l'avaient fait dans plusieurs affaires contre de nombreuses personnes, pouvaient être prouvés et établis, conformément à nos plaintes, et qu'on en fasse rapport au roi. Tout cela fut prouvé et rendu manifestement évident devant les dix commissaires, lors de deux réunions distinctes à Cliffordsdean, en présence même des indicateurs, à leur grande confusion et honte, affaiblissant leurs mains et diminuant leur persécution, de sorte que peu à peu, ils furent arrêtés, surtout après que les dix commissaires eurent fait leur rapport au roi. Et nombre d'indicateurs avaient été poursuivis par d'autres dicides pour parjure, et certains d'entre eux furent exposés au pilori pour cela. Une démarche particulière fut faite auprès du roi afin qu'il soit mis un terme aux procédures de recouvrement émanant de l'échiquier, qui était communément lancé contre plusieurs centaines de nos amis dans de nombreuses régions du pays, à raison de 20 livres par mois, et de la saisie des deux tiers des biens au profit du roi et des poursuivants, pour absence aux églises paroissiales dites-elles, en vertu d'anciens statuts établis contre les récusants papistes. Une commission du roi fut, en conséquence, obtenue pour arrêter ces brefs, procédures et poursuites de l'échiquier, ce qui empêcha la ruine de nombreuses familles. Je sollicitai et travaillai avec ardeur à toute heure pour obtenir cette libération et sauver bien des vies, jusqu'à ce qu'un jour je fusse presque mis hors d'état par une crise de maladie. Mais le Seigneur me rétablit, me ranima et m'aida, béni soit son nom à jamais. Je poursuivrai en donnant des récits plus particuliers de nos démarches et efforts relatifs à ces affaires, comme le Seigneur l'avait auparavant promis, comment ils furent présentés au roi et l'étendue du soulagement obtenu. Au roi Jacques Yi, la humble requête du peuple appelé Quakes attendu qu'il a plu au Dieu Tout-Puissant, par qui les rois règnent, de rappeler d'ici feu le roi Charles Yi et de vous conserver pour lui succéder paisiblement, nous vos sujets désirons de tout cœur que celui qui donne tout don bon et parfait veuille vous pourvoir de sagesse et de miséricorde dans l'usage de votre grand pouvoir, pour sa gloire, l'honneur du roi et le bien du royaume. Et comme il est notre résolution sincère, selon notre conduite fondée sur des principes de paix, avec l'assistance du Dieu Tout-Puissant, de vivre paisiblement et honnêtement, comme il convient à de vrais et fidèles sujets sous le gouvernement du roi, et comme un peuple de conscience qui craint et sert véritablement Dieu, nous espérons humblement que la bienveillance du roi se manifestera et s'étendra avec son pouvoir pour l'exprimer, recommandant à sa clémence princière le cas de nos amis actuellement souffrants s'y annexés. Cette pétition, avec le cas et l'état du nombre des prisonniers annexés, fut présentée ensemble au roi, et acceptée par lui, le 3 jour du premier mois, appelé mars 1684-5, par George Whitehead, Alexandre Epoque et Gilbert Lattay. Au roi le cas affligé et la requête du peuple souffrant communément appelé Quakers, humblement présentée. Montrant que, selon les comptes récemment rendus, plus de 1400 des Quakers, hommes et femmes, demeurent prisonniers en Angleterre et au pays de Galles, uniquement pour conscience délicate envers le Dieu Tout-Puissant qui les a faits. Beaucoup sont sous sentence de prémunir, et beaucoup en sont proches, non pour avoir refusé le devoir ou la substance même de l'allégeance, mais seulement parce qu'ils n'osent pas prêter serment. D'autres sont sous amendes au titre de la loi sur le bannissement, beaucoup sous bref d'excommunication. Outre que plusieurs centaines sont morts prisonniers, beaucoup du fait de leurs rudes emprisonnements, depuis l'année 1680, faisant de nombreuses veuves et orphelins de père, et laissant récemment beaucoup dans la détresse et le chagrin. Les deux derniers hivers, cette détention a entraîné la perte de beaucoup dans leur trou froid, et leur santé a été grandement altérée. À cela s'ajoutent les violences et les pertes lamentables de biens, causées par des indicateurs sans pitié, en vertu de la loi sur les conventicules, beaucoup ayant été condamnés sans être assignés ni entendus pour leur défense, tant en ville qu'à la campagne. Et aussi ils ont été victimes des procédures par lesquelles 20 livres par mois, jusqu'aux deux tiers de leurs biens, ont été saisis au profit du roi, ce qui a tendu à ruiner le commerce, l'agriculture et les foyers de familles laborieuses, certains laissés sans lit, d'autres sans bétail pour labourer la terre ou leur donner du lait, sans grain pour le pain ou la semence, ni outils pour travailler. Toutes ces saisies et autres rigueurs furent faites sous le prétexte de servir le roi et l'Église, avec l'intention de nous contraindre à violer nos consciences et par conséquent à détruire nos âmes, auxquelles nous tenons très vivement, comme nous tenons à notre place devant Dieu et à nos propres consciences, bien que comptées comme des brebis destinées à l'abattoir. Et malgré toutes ces extrémités longtemps endurées, nous confessons et déclarons solennellement, devant le grand scrutateur, que nous n'avons pour le roi que de bons et véritables sentiments, priant pour sa sûreté et la paix du royaume. Nous n'avons jamais été trouvés engagés dans aucun dessein séditieux ni traître, étant entièrement attachés à nos principes chrétiens et à nos saintes professions. Et sachant que là où est la parole du roi, là est le pouvoir, nous demandons, en humilité chrétienne et pour l'amour du Christ, qu'il plaise au roi de trouver quelques moyens pour notre soulagement en ces matières, quant à la prison, aux saisies de biens et à la ruine. Londres le 2 du premier mois, appelé mars 1684-5. À la suite de cette lettre, et omise ici, se trouve une liste du nombre de Quakes en prison, dans chaque comté d'Angleterre et du pays de Galles en considérant nos souffrances continues dues aux indicateurs, et à ces magistrats qui les soutenaient et les encourageaient à nous enlever nos biens, avec un excès et un pillage considérables, je me sentis pressé en esprit d'aller auprès du roi, pour lui donner davantage d'informations et tâcher de le persuader de mettre un terme aux persécutions ruineuses des indicateurs. Comme le roi, en conseil, l'avait promis auparavant, je souhaitais plaider de nouveau la même cause. Ayant fait part à mon bon ami Robert Barclay de mon intention de me présenter devant le roi, il déclara vouloir m'accompagner, parce qu'il avait connu et visité le roi, dans son pays d'Écosse avant que celui-ci n'ait succédé à son frère sur le trône. Le 26, au jour du troisième mois, appelé mai 1685, vers 4 heures de l'après-midi, nous fûmes admis en présence du roi. George Whitehead, nous reconnaissons avec gratitude la faveur du roi de nous accorder une audience. Ayant informé Lord Peterborough de nos grandes souffrances dues aux indicateurs, dans et autour de Londres, il suggéra que nous en informions le roi, car, dit-il, il avait fait connaître au roi notre désir, et qu'il parlerait au Recorder afin que l'on mette un terme aux indicateurs. Il nous dit encore que le roi avait promis de faire venir le Recorder et de lui parler, et que nous en sentirions bientôt les effets. Roi, Lord Peterborough m'en a parlé et m'en a informé. Je n'ai pas encore parlé au Recorder, mais j'ai l'intention de lui parler demain. Je le ferai venir aux appartements du prince et je lui en parlerai. Par conséquent, rappelez-le-moi demain, lorsque j'irai à la Chambre des Lords. George Whitehead, s'il plaît au roi de lui parler ainsi qu'au Lord Mayor, afin que l'on mette un terme à ces indicateurs, pour qu'ils ne continuent pas à ruiner des familles comme ils le font, nous ne doutons pas que cela ne soit efficace. Avec la permission et la faveur du roi, j'ai encore quelque chose à proposer. Roi, vous pouvez, George Whitehead. Il s'agit de la récente promesse du roi, qui comporte deux parties, à savoir celle qui concerne la défense de l'Église, et celle qui concerne l'effort du roi pour suivre l'exemple de son frère défunt, feu le roi, surtout dans sa grande clémence et sa tendresse envers son peuple. Cette première et principale partie de la promesse, l'Église s'en saisit, en ce qu'elle concerne sa défense. Nous nous saisissons de la partie qui concerne les efforts du roi à suivre l'exemple de son frère défunt, feu le roi, surtout dans sa grande clémence et sa tendresse envers son peuple. Et ces deux choses peuvent très bien aller ensemble. Et si le roi veut bien me le permettre, je lui rappellerai avec sa faveur quelques actes de clémence que son frère défunt, feu le roi, a montrés à notre égard, roi. Permission accordée de continuer. George Whitehead. Feu le roi, après son couronnement, publia sa proclamation de grâce pour libérer nos amis des prisons dans toute l'Angleterre, à la suite de quoi plusieurs centaines furent relâchées. Et en l'année 1672, feu le roi publia sa déclaration d'indulgence pour la liberté des consciences délicates, ainsi que ses lettres patentes ou pardons sous le grand sceau pour libérer nos amis des prisons. Alors nous eûmes liberté pendant quelques années, roi. J'avais l'intention d'accorder une grâce générale à l'occasion du couronnement, mais la raison pour laquelle elle fut différée jusqu'à la réunion du Parlement, c'est que certaines personnes, devenues répréhensibles pour avoir participé au récent complot, auraient ainsi été graciées et auraient pu venir siéger au Parlement, ce qui n'eût pas été sûr. Mais j'ai l'intention que vos amis soient délivrés de prison. Et quant à la déclaration dont vous parlez en 72, c'est moi qui ai été la cause de la rédaction de cette déclaration, et je n'ai jamais donné mon consentement à ce qu'on la rende nulle. Ce sont les presbytériens qui ont causé qu'elle fût rendue nulle ou annulée au Parlement, George Whitehead. Ce furent assurément nos adversaires qui causèrent son annulation. Le roi peut défendre l'Église d'Angleterre et pourtant accorder l'indulgence, ce qui peut très bien aller ensemble, pourvu que la liberté des consciences délicates soit admise, avec une défense modérée de l'Église qui ne détruise pas les dissides de conscience. Roi, je suis d'avis que cela peut aller ensemble, George Whitehead. Il y a un exemple clair dans la dite déclaration. Feu le roi accorde indulgence et liberté aux consciences délicates. Et pourtant il s'engage à préserver l'Église d'Angleterre dans sa doctrine et sa discipline. Et si le roi le veut bien, je lui laisserai la déclaration d'indulgence, à cause de ce passage, afin de lui rappeler, car je l'ai. Roi, vous n'avez pas besoin de la laisser, car j'ai le livre chez moi, George Whitehead. Les emprisonnements, ainsi que le grand pillage commis par les indicateurs, pèsent encore très durement sur beaucoup dans et autour de Londres et ailleurs. 5 mandats à la fois ont été exécutés contre une seule personne, pour un total de 50 livres, 10 livres par mandat. Nous supplions le roi de mettre un terme à ces indicateurs, car beaucoup sont fortement entravés par eux et en viennent à abandonner leur métier et leur boutique, bien que nous soyons aussi disposés à payer nos impôts et devoirs civils au roi que tout autre peuple. Et par l'emprisonnement étroit de beaucoup, même ici à Londres, dans la prison de Newgate, plusieurs de nos amis ont été si suffoqués qu'on les a sortis malades d'une fièvre maligne, et qu'ils sont morts en quelques jours, roi. J'ai l'intention que vos amis soient libérés de prison, et je réfléchirai à un moyen d'arrêter les indicateurs. Mais puisqu'ils ont une part des amendes, je dois considérer de quelle manière je puis le mieux les arrêter et vous soulager, ou au même effet. George Whitehead, nous avons de justes objections contre la loi sur les conventicules elles-mêmes, à plusieurs clauses. Robert Barclay, condamner des hommes dans leur dos, c'est contraire aux droits des nations, George Whitehead. Et ensuite, condamner l'appelant à des frais triplés, au cas où il perd à l'examen de son appel, sans qu'il y ait des frais contre les indicateurs, ni aucune disposition pour qu'ils fassent restitution à la partie lésée s'ils perdent ou si leur poursuite injuste est rejetée, cela paraît très inégal. Et si le roi veut bien me le permettre, avec sa faveur, je lui donnerai un exemple d'une loi quelque peu semblable à celle-ci contre les conventicules, qui fut faite sous le règne du roi Henri VIII, pour les indicateurs, poursuites, etc. Et qui fut abrogée au début du règne du roi Henri VIII, par son premier parlement. Et pourtant, elle était plus tolérable que cette loi sur les conventicules, c'est-à-dire quant aux poursuites, car nous ne trouvons pas que des personnes y aient été condamnées en leur absence, et il y est prévu que les indicateurs ou poursuivants s'ils perdent leur cause fassent restitution à la partie lésée, mais ici, il n'y a aucune disposition pour qu'ils fassent restitution. C'est pourquoi cette loi sur les conventicules est plus intolérable que celle qui fut abrogée, laquelle n'est pas citée dans le nouveau recueil des statuts, mais seulement mentionnée comme abrogée. Toutefois, elle est citée au long dans certains anciens. Nous sommes disposés à présenter au Parlement un exposé de nos souffrances, où nous désirons la favorable concordance du roi, et nous avons donc jugé bon d'informer d'abord le roi de notre intention, puisque nous sommes prêts et désireux qu'il soit informé de toute démarche publique que nous ferons auprès du Parlement. Roi, qu'est-ce que c'est, George Whitehead ? C'est un exposé clair de nos souffrances en matière de faits, du même genre que celui que nous avons récemment donné au roi, avec quelques raisons avancées pour l'abrogation de la loi sur les conventicules. Roi, faites-le-moi voir, et je vous donnerai mon avis à son sujet. George Whitehead, nous avons l'intention de le montrer au roi. Conclusion. Et nous reconnaissons humblement et avec gratitude la faveur du roi de nous permettre jusque-là d'être entendus. Commentaire de l'éditeur du site. Remarquez comment Whitehead, par rapport à Barclay, a porté toute la discussion. Considérez maintenant que les Quakers d'Ojudieu vénèrent Barclay, même au-dessus de Fox, tout en traitant Whitehead avec indifférence. Le premier jour du quatrième mois, 1685, George Whitehead et Gilbert Latte eurent accès au roi, avec les documents exposant le cas de nos amis, la pièce ayant été fidèlement recopiée au long, et un sommaire abrégé de celle-ci pour que le roi prenne ce qui lui plairait. Ce que George Whitehead présenta ainsi, « Nous sommes venus donner au roi la pièce concernant nos amis souffrants, comme nous nous y étions engagés. Voici le cas au complet, ainsi que son abrégé, le roi peut prendre ce qui lui plaît. Roi, je prendrai l'abrégé, George Whitehead. » Quand aurons-nous le bon plaisir du roi de nous faire connaître son sentiment à ce sujet, roi ? Vous n'avez pas besoin d'attendre maintenant, George Whitehead. Nous ne voudrions pas manquer volontairement notre occasion de le présenter au Parlement. Roi, vous pouvez le remettre quand vous voudrez. Après que Robert Barclay et moi eûmes été auprès du roi et nous fûmes entretenus avec lui comme il a été rapporté, Robert Barclay se déclara très satisfait de mon entretien avec lui et du comportement du roi envers nous, et de la manière si pleine et si bonne dont il avait entendu les choses. De sorte que nous espérions encore quelques soulagements des grandes rigueurs de l'emprisonnement, et qu'il serait mis un terme à ces persécuteurs dévorants, les indicateurs. Au roi et aux deux chambres du Parlement, l'état de souffrance du peuple paisible appelé Quakers, seulement pour conscience délicate envers le Dieu Tout-Puissant, humblement présenté. Montrant que, ces derniers temps, plus de 1500 exigeants, hommes et femmes, ayant été détenus prisonniers en Angleterre, et une partie d'entre eux au pays de Galles, dont certains ont depuis été libérés par les juges, et d'autres délivrés par la mort du fait de leur longue et pénible détention, il en reste maintenant, selon les derniers comptes, environ 1383, plus de 200 d'entre eux étant des femmes. Beaucoup, hommes et femmes, sous sentence de prémunir, et plus de 300 proches de la mort, non pour nier le devoir ni refuser la substance même de l'allégeance, mais seulement parce qu'ils n'osent pas prêter serment, beaucoup sous bref d'excommunication, et sous amende dite dues au roi, et en vertu de la loi sur le bannissement. En outre, plus de 320 sont morts en prison, comme prisonniers, depuis l'année 1660, dont près de 100, du fait de cette longue détention, à ce qu'on estime, depuis le compte remis au feu roi et au Parlement en 1680, faisant ainsi des veuves et des orphelins de père, et les laissant dans la détresse et la tristesse. Les deux derniers hivers, la rigueur de la détention et l'enfermement étroit d'un grand nombre dans de nombreuses prisons ont inévitablement tendu à leur destruction, leur santé ayant été visiblement altérée par les hivers. Et ici à Londres, la prison de Newgate a été de temps à autre surpeuplée durant ces deux dernières années, parfois près de 20 dans une seule pièce au détriment de leur santé. Et plusieurs pauvres artisans innocents, ces derniers temps, ont été si suffoqués par l'étroitesse de la prison qu'on les a sortis malades d'une fièvre maligne, et qu'ils sont morts quelques jours plus tard. Rigueur longue, continue et destructrice envers les personnes des hommes et des femmes, comme il a été dit de grandes violences, des détresses outrageantes, et de lamentables ravages et dépouillements ont été, et sont encore fréquemment commis sur nos biens et nos domaines, dans et autour de cette ville de Londres, ainsi que dans d'autres parties de ce pays, par une troupe d'indicateurs oisifs, extravagants et sans pitié, et leur poursuite au titre de la loi sur les conventicules, beaucoup étant condamnés sans être présents au tribunal et sans. Ainsi que sur des brefs qui tament, à l'initiative d'indicateurs qui poursuivent pour un tiers à leur profit, et sur d'autres procédures à raison de 20 livres par mois, et des deux tiers des biens saisis pour le roi, tout cela tendant à la ruine du commerce, de l'agriculture et des fermiers, et à l'appauvrissement de nombreuses familles laborieuses, sans compassion pour les veuves, les orphelins de père ou les désolés. À certains, il n'est laissé aucun lit pour se reposer, à d'autres, aucun bétail pour labourer leur terre, ni grain pour le pain ou la semence, ni outils pour travailler. Les dix indicateurs et les huissiers des shérifs, en certains lieux, se montrant outrageusement excessifs dans leurs saisies et contraintes, forçant l'entrée des maisons et causant de grands gaspillages et pillages. Et toutes ces rigueurs et autres, commises contre nous par eux, sous prétexte de servir le roi et l'Église, afin de nous contraindre à une conformité sans conviction intérieure ni satisfaction de nos consciences délicates, où se trouve engagée notre paix avec Dieu, à quoi nous sommes très sensibles. les statuts en vertu desquels nous, le dit peuple, souffrons emprisonnement, contraintes et dépouillement sont les suivants le 5 Delis, chap. 88 d'Excommunicato Capiendo, le 23 Delis, chap. 1 pour 20 livres par mois, le 29 Delis, chap. 6 pour continuation, le 36 Delis, chap. 1 pour abjurer le royaume sous peine de mort. Le 1er Delis, chap. 2 pour 12 pence le dimanche, le 3 du roi Jacques, chap. 4 pour prémunir emprisonnement à vie et confiscation des biens, le 13 et 14 du roi Charlie, contre les Quakers, etc. Transportation le 22 du roi Charlie, chap. 1 contre les conventicules séditieux, le 17 du roi Charlie, chap. 2 contre les non-conformistes, le 27 d'Henri V, chap. 20 quelques rares cas en souffrent, sur la base d'actes d'accusation en common law, prétendument et artificiellement montés contre nos paisibles assemblées religieuses pour émeutes, attroupements, rupture de la paix, etc., en vertu desquels beaucoup, hommes et femmes, sont condamnés à des amendes, emprisonnés et détenus pour non-paiement, certains jusqu'à la mort. Exemple, la ville de Bristol, où un grand nombre sont depuis de nombreuses années étroitement enfermés et entassés en prison, le plus souvent plus de 100 sous ce prétexte, dont environ 70 femmes, beaucoup âgées. Et dans la ville de Norwich, en 1682 et 83, environ 70 furent détenus, dont 45 dans des trousses et des cachots pendant de nombreuses semaines, et de grandes rigueurs ont eu lieu et ont lieu encore ailleurs. Ainsi nos réunions paisibles sont parfois amendées au titre de la loi sur les conventicules, comme exercice religieux, et d'autres fois au titre de la common law, comme émeute, attroupement, etc. Alors que rien de cette nature n'a jamais pu être prouvé contre elle, puisqu'il n'y a rien de violent ni de dommageable, ni fait, ni menacé, ni intentionné contre la personne ou les biens de quiconque. Les emprisonnements longs et pénibles sont principalement fondés sur les brefs de Excommunicato Capiendo, sur le jugement de prémunir, et sur des amendes dites d'uso roi. Le grand pillage, ainsi que les contraintes et saisies excessives, reposent principalement sur la loi sur les conventicules, et sur les 20 livres par mois, les deux tiers des biens, et sur les brefs qui tament. Dans certains comtés, beaucoup ont souffert par saisies et contraintes durant plus de 8 ans écoulés, et des brefs ont été récemment émis pour de nouvelles saisies dans plusieurs comtés, pour 20 livres par mois, montant à la valeur de plusieurs milliers de livres, saisissant parfois pour 11 mois à la fois, et vendant tous biens et effets dedans et dehors, tant les biens domestiques, lits, marchandises de boutique, meubles, bétail, etc. Et les poursuites sur ce fondement continuent encore, et ont beaucoup augmenté dans plusieurs comtés, de sorte que plusieurs, qui ont longtemps employé des centaines de pauvres familles dans la manufacture et payé au roi des taxes considérables, sont fortement empêchés de faire l'un et l'autre par ces brefs et saisies, comme aussi par les longs emprisonnements. Plusieurs fabricants de serge de Plymouth, qui faisaient travailler plus de 500 pauvres personnes, furent mis hors d'état par l'emprisonnement. Beaucoup dans le comté de Suffolk, sous une longue détention, furent condamnés à un prémunir, dont l'un employait au moins 200 pauvres personnes dans la manufacture de laine lorsqu'il était en liberté. Sans citer d'autres exemples, pour ne pas paraître trop prolixe, ceux-ci peuvent montrer combien de telles rigueurs sont destructrices pour le commerce et l'industrie, et ruineuses pour de nombreuses familles pauvres. Au titre de la loi sur les conventicules, au cours de ces deux dernières années, beaucoup dans et autour de cette ville de Londres ont été extrêmement opprimés, affaiblis et dépouillés dans leurs biens et leurs métiers, sur la base de nombreuses condamnations et mandats dressés contre eux en leur absence, sur le crédit d'information juré par des indicateurs dissimulés, dont plusieurs femmes effrontées, qui jurent pour leur profit en raison de leur part des amendes et des saisies, leurs maris étant emprisonnés pour dettes à cause de leurs extravagances. Les mandats étaient communément faits pour forcer les portes et entrer dans les maisons, ce qui se fait avec rigueur et grand pillage, n'épargnant ni les veuves, ni les orphelins de père, ni les familles pauvres, qui sont entretenues par leurs soins et leur industrie quotidien, et ne leur laissant pas même un lit pour se reposer. Les amendes fondées sur les mandats d'un seul juge montant à plusieurs centaines de livres, fréquemment 10 livres par mandat, et 2 mandats à la fois pour 20 livres exécutés sur une seule personne, et 3 mandats à la fois d'un autre juge pour 60 livres sur une autre personne, et tous ces biens emportés en environ 10 chartés, et 5 mandats à la fois pour 50 livres sur un autre, outre ce que nous avons souffert par d'autres en pareille manière. Et dans cette voie destructrice, les indicateurs sont encouragés et autorisés à continuer, pour ruiner de nombreuses familles dans leurs métiers et moyens de subsistance, plusieurs étant si découragés et rendus incapables qu'ils sont forcés d'abandonner leurs boutiques et leurs métiers. Que ces indicateurs soient tenus pour des témoins crédibles, alors qu'ils sont partis jurant pour leurs propres profits et gains, en l'absence des personnes poursuivies, nous paraît très dur et une procédure indue, incompatible avec la common law ou la justice. Ainsi aussi, nous condamner et nous amender sur la base de leur déposition, sans être assignés et sans être entendus pour notre propre défense, et nous tenir ainsi dans l'ignorance de nos accusateurs, sauf en cas de contestation lors de nos appels. Cette procédure paraît contraire à la loi de Dieu, à la justice commune et à l'équité, ainsi qu'aux lois et à la justice des anciens Romains et des nations. Et bien qu'il ait été montré ouvertement, lors de l'examen d'appel, à plusieurs sessions trimestrielles, tant pour le Middlesex et Londres que pour d'autres lieux, que les dépositions de plusieurs indicateurs ont été fausses en fait, pourtant la grande peine et les grands frais des appels par contestation, ainsi que le grand encouragement donné aux indicateurs par celui qui accorde le plus de mandats, ont découragé beaucoup de chercher un remède si difficile, considérant aussi les frais triplés contre l'appelant, au cas où il ne réussit pas ou n'est pas. Alors que ni frais, ni restitutions ne sont accordés ni donnés contre les indicateurs pour poursuites injustes. Ont aussi refusé d'accorder des appels, et d'autres ont refusé des copies de mandats afin d'empêcher les appels. Et si cela est égal ou juste, veuillez considérer, vous qui êtes des hommes sages et judicieux, et si c'est pour l'honneur du roi et l'intérêt du peuple que des indicateurs oisifs, ivrognes et extravagants soient encouragés et autorisés à continuer ainsi à ruiner le commerce, l'agriculture et les familles, ou à commander et menacer les juges de paix, sous peine d'une confiscation de 100 livres, s'ils ne prononcent pas de condamnation. Enfin, un tiers des amendes étant attribuées au roi, il ne peut remettre que cette part. Mais les indicateurs et les pauvres se voyant attribuer les deux tiers, il semble que cela ne lui permette pas de les remettre, si grande que soit la cause qui puisse lui apparaître d'étendre sa faveur en ce cas. N'est-ce pas contre la prérogative royale, en ce qu'elle restreint sa clémence souveraine? Et jusqu'où cela porte atteinte au gouvernement et lui est scandaleux, que des indicateurs misérables et grossiers, dont certains des femmes hardies, non seulement commandent, menacent et inquiètent les juges, officiers de paix, etc., mais encore détruisent les sujets du roi honnête, industrieux et paisible, leurs biens et leurs domaines. Cela mérite vos sérieuses considérations. Et si, dès lors, la dite loi sur les conventicules ne devrait pas à juste titre être abrogée, un exemple notoire d'un cas semblable, nous l'avons concernant le statut du 11 Henri V. Chap. 3 pour déterminer certaines offenses et outrages seulement sur poursuite d'indicateurs ayant été abrogés la première année du roi Henri V. Chap. 6 bien que celui-là fût, à certains égards, plus tolérable que celui-ci. Veuillez faire de notre cas le vôtre, et nous traiter comme vous voudriez être traités, puisque vous ne voudriez pas être opprimés ni détruits dans vos personnes ou vos biens, ni voir vos propriétés envahies et vos descendances ruinées, pour avoir servi et adoré le Dieu Tout-Puissant qui a fait tous les hommes, selon vos convictions et vos consciences, mais vous voudriez en jouir de la liberté. Nous vous supplions d'accorder la même liberté aux consciences délicates, qui vivent paisiblement sous le gouvernement, que vous voudriez jouir vous-même, d'annuler la dite loi sur les conventicules et d'arrêter ces indicateurs dévorants, et aussi de supprimer toutes les lois sanguinaires, les peines corporelles et pécuniaires, uniquement au motif de la religion et de la conscience, et que la ruine et le cri de la veuve, de l'orphelin de père et des familles innocentes ne pèsent pas sur cette nation, ni à votre porte, vous à qui est non seulement confié une grande charte. Et nonobstant toutes ces extrémités longtemps endurées, nous, le dit peuple souffrant, professons et déclarons solennellement, devant le Dieu qui voit tout et qui sonde les cœurs, que de même que nous n'avons jamais été trouvés dans aucun dessein séditieux ni traître, ceci étant entièrement contraire à notre principe et profession chrétien, de même nous n'avons envers le roi et le gouvernement que bonne volonté et vraie affection chrétienne, désirant sincèrement sa sûreté et la vôtre, votre prospérité et votre concours dans la miséricorde. Après que le roi eût été pleinement informé de nos difficultés, au travers des grandes persécutions et souffrances que beaucoup de nos amis innocents et scrupuleux avaient longtemps endurées, tant dans leur personne que dans leurs biens, et après que de nombreuses démarches eurent été faites auprès de lui pour obtenir soulagement à cet égard, il lui plut d'accorder un mandat ou une commission générale à l'avocat général d'alors, Sir Robert Sawyer, en faveur de nos amis souffrants, incluant les diverses sortes de procédures, condamnations et jugements. Celles-ci étaient souvent détournées par les persécuteurs, qui, dans leur mauvaise administration, exécutions et saisies outrageuses, ravages et dépouilles de biens, dépassaient fréquemment la sévérité de ces lois, de même que par des enfermements étroits et impitoyables des personnes, hommes et femmes. Beaucoup des déchéances, amendes et confiscations étaient déclarées acquises au roi, avec emprisonnement durant son bon plaisir, et beaucoup souffraient en vertu de ces anciennes lois faites contre les recusants papistes, sous les règnes de la reine Élisabeth du roi Jacques Ier. Et cela touchant le roi Jacques Ier étant papiste, il pouvait d'autant plus aisément conclure qu'il était dans son pouvoir, et dans la prérogative de la couronne, de pardonner et de soulager les protestants d'Issyde de leurs extrêmes oppressions. Voici une copie du mandat et de la commission ci-dessus mentionnée, Jacques R. Attendu que nous avons été informés que plusieurs de nos sujets, communément appelés Quakers, mentionnés dans les listes ci-jointes, sont soit condamnés, soit poursuivis en vue de leur condamnation pour prémunir pour n'avoir pas prêté serment, ou inculpés ou dénoncés pour ne pas aller à l'église, ou condamnés pour la même cause, et que plusieurs d'entre eux ont été portés à notre échiquier, et y sont mis en charge de 20 livres par homme, conformément au statut prévu en ce cas, et que certains d'entre eux sont en prison en vertu de bref. Donné en notre cour à Whitehall, le 15 jour de mars 1685-6, la deuxième année de notre règne. À notre fidèle et bien-aimé, notre avocat général, par ordre de Sa Majesté, Sunderland P. Quand ce mandat nous fut accordé et remis, l'avocat général, Sir Robert Sawyer, n'est pas à Londres, mais à près de 40 000 de là, dans sa maison de campagne à Reckley dans l'Hampshire. Et les amis de Londres, désirant vivement que nos amis détenus dans les diverses prisons des villes et comtés à travers l'Angleterre fussent immédiatement mis en liberté, il fut décidé que deux ou trois d'entre nous feraient le voyage jusqu'à l'avocat général pour lui remettre le mandat susdit du roi, et obtenir sur cette base un mandat ou un ordre. John Edge, Roland Vaughan et moi-même fûmes priés d'entreprendre sur le champ ce voyage auprès de l'avocat général pour ce service. À ce moment-là, j'étais faible de corps et si indisposé quant à ma santé, ayant beaucoup travaillé et fréquenté la cour pour l'aisance et le soulagement de nos amis, que je me pensais très inapte à ce voyage, car je restais alors dans ma chambre. Toutefois, ceux-ci ne voulant pas y aller sans moi, moi qui avais été le plus engagé dans les sollicitations pour obtenir du roi le mandat à l'avocat général, je me trouvais dans une plus grande contrainte. Et après une brève réflexion, je fus persuadé et résolu de les accompagner, si possible, pourvu que je puisse être en état d'effectuer le voyage. Nous mîmes 2 jours, et la matinée suivante avant d'atteindre la demeure de l'avocat général, qui nous reçut et nous acquit avec civilité lorsque nous lui eûmes présenté la commission du roi. Et nous le persuadâmes promptement de donner des instructions à notre compagnon d'alors, Roland Vaughan, pour rédiger un mandat de mis en liberté de nos amis alors prisonniers à Londres. Conformément à ces instructions, Roland rédigea plusieurs mandats pour faire sortir nos amis de prison, que l'avocat général signa ce jour-là. Et pour achever cela, il voulut que nous restions dîner, car il était près de la 4e heure avant que nous puissions tout faire et tout faire signer, puis repartir. La nuit était tombée avant que nous arrivions à Seal, environ 4 miles au-delà de Reading, où nous logeâmes dans une auberge, et le lendemain nous vîmes à Brantford. Avant ce moment, j'avais recouvré mes forces, et j'allais si bien que je pouvais voyager bien mieux qu'à mon départ de Londres, en quoi j'observais avec reconnaissance la miséricordieuse providence de Dieu, m'accordant santé et capacité au-delà de toute attente. Peu après, l'avocat général retourna à Londres, à son office du Temple, où je l'assistais, parfois avec Gilbert Latt, pour signer le reste des mandats que, suivant sa direction, Roland Vaughan avait préparés, afin de faire libérer le reste de nos amis détenus dans les prisons à travers l'Angleterre, dans la mesure où il en avait le pouvoir par la commission susmentionnée, ce qui demanda un temps considérable pour être effectivement accompli. Les prisonniers furent peu à peu relâchés, bien que nous eussions encore à faire pour obtenir les mandats et la mise en liberté en certains endroits, notamment à Bristol, à cause des frais exigés. Le greffier de la ville y retint nos amis en prison pour non-paiement de ses demandes, ce qui nous amena à nous plaindre de lui auprès du roi, et ayant débattu de l'affaire avec lui devant l'avocat général, il fut persuadé de s'en remettre à la courtoisie et à la liberté de nos amis, et souhaita que je lui laisse le mandat de l'avocat général pour libérer nos amis lorsqu'il retournerait à Bristol. Je le lui confiai en conséquence, et alors il les fit sortir de prison là-bas. Nous fûmes vivement préoccupés d'importuner le roi afin de mettre un terme aux poursuites ruineuses et aux persécutions des dénonciateurs mercenaires et impitoyables à Londres et dans le Middlesex. Et nous lui présentâmes de nombreuses pétitions et plaintes contre eux, le Seigneur m'ayant imposé un grave souci, et m'ayant rendu capable par sa puissance, dans la foi et le zèle pour sa vérité et pour son peuple souffrant, de les poursuivre afin de découvrir leur tromperie et leur méchanceté, leur démarche illégale et injuste contre nous. Oh. J'écrivis aussi une brève requête au roi, pour qu'il nommât des commissaires afin de nous entendre, nous et les dénonciateurs, face à face, de sorte que nous ayons une juste occasion de prouver les faits dont nous nous plaignons contre eux en leur présence. Le roi accorda ma requête et donna commission en conséquence, qui me fut remise par le secrétaire gratuitement sans frais. Et avec quelques autres, nous poursuivîmes cette affaire efficacement contre les dénonciateurs. Nous fûmes contraints de renouveler nos plaintes par voie de pétition au roi, contre ces dénonciateurs persécuteurs, même après que le roi eut exprimé quelques clémences et compassion envers nous, et une aversion pour la persécution. Eux n'en tinrent aucun compte pendant un certain temps, mais au contraire, affrontant la faveur du roi, ils renouvelaient fréquemment contre nous leurs poursuites injustes et ruineuses. Jusqu'à ce qu'ils fussent publiquement démasqués et réprimandés devant les commissaires du roi pour leur grande injustice, leur faux serment, leur... Tout cela n'arrivait que pour leur conscience délicate envers Dieu Tout-Puissant, en le servant et l'adorant sincèrement, lui devant qui seul nous sommes comptables en la matière. À la suite de la dite requête au roi, de nommer des commissaires pour nous entendre, nous et les dénonciateurs, face à face, il donna commission à 2 personnes, qu'il désigna pour nous entendre et lui faire rapport de l'affaire. Les commissaires étaient R. Graham et P. Burton, à qui nous remîmes la commission du roi, et ils m'autorisèrent à délivrer des convocations à ces dénonciateurs contre lesquels nous nous étions plaints, ainsi qu'aux amis qui avaient été persécutés et lésés par eux. J'eus liberté de convoquer qui je jugeais bon, et autant que je le jugeais bon, tant parmi ces dénonciateurs que parmi nos amis de Londres et des environs et du comté de Middlesex, pour comparaître devant lesdits commissaires à Clifford's Inn, le 4 juin, ainsi appelé 1686. ayant au préalable rassemblé et exposé clairement les cas particuliers de plus de 50 de nos amis, victimes des poursuites injustes et des fausses dénonciations des dénonciateurs, j'envoyai des convocations pour qu'ils comparussent devant lesdits commissaires, au jour et au lieu fixé, et qu'ils amènent leurs témoins capables de confondre les dénonciateurs pour leur faux serment. Et nous donnâmes pareillement, par convocation, un avis en temps utile à nombre de dénonciateurs principalement concernés. Lorsque nous fûmes à Clefuddin le jour fixé, nous rencontrâmes une grande compagnie de dénonciateurs à l'extérieur, qui, voyant un grand nombre de nos amis, furent dans une grande rage, et certains crièrent « Voilà tous les diables de l'enfer qui arrivent », et m'apercevant, ils dirent « Et voilà le vieux diable, le chef de tous ». Geoffrey Nightingale et Peter Lugg, juges de paix, vinrent aussi, contre lesquels les dénonciateurs étaient offensés, et certains d'entre eux avaient intenté des actions contre le premier, parce qu'ils avaient refusé d'accorder des mandats contre certains de nos amis, ou de les condamner en leur absence. Étant appelés devant les commissaires, dans une grande chambre à l'étage, pour conduire et prouver contre les dénonciateurs nos plaintes et accusations, contenues dans notre pétition au roi, et ayant pris les cas correctement et distinctement rédigés sur plus de 12 grandes pages, je commençai d'abord par les cas où les dénonciateurs avaient prêté de faux serments sur des faits, présentant le cas de chaque ami dans l'ordre. Chacun fut appelé, et où les dénonciateurs incriminés dans ce cas furent appelés à entrer pour entendre l'accusation portée contre eux. Les femmes dénonciatrices étaient désespérées dans leurs serments et leurs dépositions contre nos amis, autant que les hommes, qui étaient les principaux dénonciateurs. Ceux-ci, dans plusieurs cas de faux serments sur des faits, ne pouvaient guère tenir en si grande page. Je présentai au commissaire un cas après l'autre, dans l'ordre, pour une considération et un examen approfondi de chacun, et produisit au fur et à mesure une démonstration claire et des preuves positives de chaque article, non seulement par les victimes elles-mêmes, mais aussi par de nombreux témoins crédibles présents, montrant combien grossièrement et abominablement ces dénonciateurs s'étaient parjurés et avaient porté faux témoignages dans beaucoup de cas. Les commissaires du roi et les juges de paix présents en prirent manifestement conscience et ne pouvaient faire autrement lorsqu'ils virent ces dénonciateurs si confondus et réduits au silence qu'ils ne pouvaient se défendre. Une chose, au passage, fut assez remarquable lorsque leur capitaine, John Hilton, fut appelé à entrer pour répondre de lui-même devant les commissaires. Ses compagnons ne le laissèrent pas entrer avant eux, car, disait-il, il avait bu et n'était pas en état. On l'appela plusieurs fois. Enfin, il dit au messager venu le chercher qu'il ne se souciait pas des commissaires du roi. Cette réponse leur fut rapportée, et comprenant dans quel désordre ils se trouvaient, ils passèrent sur son incivilité. Quel peu d'égard ou d'honneur il montra au roi. Et pourtant, de tels dénonciateurs ivrognes s'estimaient, en ces jours-là, d'éminents serviteurs du roi et de l'Église. Deuxièmement, forcer et enfoncer les portes des maisons et des boutiques avec force et violence, par des dénonciateurs et des constables, afin d'opérer des saisies sur nos biens domestiques et de boutiques, à un excès considérable, car parfois ils emportaient des charretées entières. C'est ainsi que je fus traité, comme beaucoup d'autres, à qui l'on enfonça les portes, et dont les biens furent enlevés avec un excès et un gâchis tel que le cri de ces oppressions fut grand parmi nos voisins. Et nous sommes sûrs que le cri en parvint aux oreilles du Seigneur du Sabbat, et qu'il plaida notre cause innocente. Nous donnâmes aux commissaires, le premier jour de notre réunion, tant d'exemples et de preuves des abus des dénonciateurs, de leurs faux serments, de leur violence et de leur pillage, qu'ils parurent presque lassés de les entendre ce jour-là, les faits étant manifestement prouvés contre les dénonciateurs en leur présence, à leur grande honte et confusion. La saison était aussi chaude, et la salle fort encombrée, ce qui rendit le traitement de tant de cas et de révélations plus pénible pour eux, bien que, lors du premier jour de notre réunion, nous n'eussions pas parcouru même le quart des cas et accusations que nous avions présentés devant eux. Les commissaires fixèrent un autre jour de réunion, le 14 du même mois, appelé juin. Nous nous réunîmes de nouveau à cette date, et beaucoup des dénonciateurs susmentionnés comparurent à mesure qu'ils étaient appelés, l'un après l'autre. Thomas Hinton amena avec eux un avocat de son côté pour plaider leur cause et les aider. Mais lorsqu'il essaya, il ne put justifier leurs procédures injustes et barbares, leurs parjures, leurs condamnations de personnes en leur absence, le fait de forcer des maisons pour saisir et emporter nos biens, etc. Pour ces agissements injustifiables, il n'avait aucune apparence de droit à invoquer, bien qu'au début il eût faiblement essayé d'excuser un peu les dénonciateurs. Je lui montrai, d'après le conventicle acte, comment il en avait dépassé la sévérité et combien il se trompait dans l'allégation faite pour eux, si bien qu'il fut rapidement réduit au silence devant les commissaires et devant ses clients, les dénonciateurs. Lors de la seconde réunion, nous ne vîmes pas à bout de la moitié de nos plaintes et accusations contre ces dénonciateurs persécuteurs. Les commissaires estimèrent alors qu'il y en avait assez pour les démasquer et pour fonder sur cela leur rapport au roi, et les dénonciateurs, assurément, en avaient assez pour leur honte et leur confusion. La fin de cette dernière réunion, je fis pour la considération des commissaires la proposition suivante, à savoir que, puisqu'il avait été manifestement prouvé devant combien souvent les dénonciateurs s'étaient parjurés sur des faits évidents, et avaient fait tant de ravages parmi les paisibles sujets du roi, ils considéraient s'ils ne devaient pas être découragés et arrêtés dans toute poursuite ultérieure contre nous, afin qu'ils ne soient pas réputés être en cela les serviteurs du roi, mais qu'ils soient estimés, tout en cherchant la ruine de ces... À quoi les commissaires répondirent peu, mais ils estimaient que ce n'était pas dans leur commission de donner leur avis ou jugement sur ce point. Toutefois, l'un d'eux dit qu'en matière de prudence, ils pensaient qu'il était plus sûr pour eux de s'abstenir. Les dénonciateurs coupables, étant clairement démasqués et leurs faussetés exposées, furent dans une grande rage contre moi, surtout parce que je proposais qu'on les décourage et qu'on les arrête dans toute poursuite ultérieure contre moi. Ils étaient si amèrement furieux contre moi, m'invectivant et me menaçant, que des amis craignent quelque peu qu'ils ne cherchent à faire du mal, c'est-à-dire le tuer. Je leur dis que je ne les craignais point, ni ce qu'ils pouvaient faire, car j'étais tenu en conscience de les rendre manifestes au gouvernement. Ils ne m'empêcheraient pas par leurs menaces, car j'osais et pouvais en appeler aux plus hautes autorités contre eux, ce que je doutais qu'eux osassent faire pour se justifier. Je puis dire, en vérité, que je fus grandement assisté et fortifié par la puissance du Seigneur, dans une foi et un zèle véritable, pour soulager ma conscience dans ces affaires, contre cet esprit persécuteur et l'œuvre destructrice qui en procède. Je bénis le digne nom du Seigneur notre Dieu, qui me fortifia et me soutint en cela, et dans beaucoup d'autres épreuves et services, pour l'amour de sa vérité bénie et de son peuple. Je ne dois pas omettre une épreuve qui survint à certains d'entre nous entre les deux réunions que nous eûmes devant les commissaires du roi à Kleffezin, susmentionnés, les 4 et 14 juin, ainsi appelé, 1686, dans l'affaire suivante concernant John Dew, William Ingram, John Vaughan et George Whitehead. Certains dénonciateurs, ayant obtenu un mandat daté du 12 juin 1686, les personnes susdites furent arrêtées en vertu de celui-ci le 13 du même mois, à leur lieu habituel de réunion dans Gracechurch Street, Londres, au moment où ils s'apprêtaient à partir, aucune proclamation n'ayant été faite leur enjoignant de se disperser. Et dans le dit mandat il n'était fait aucune mention des Quakers, mais de sectaires déloyaux, factieux et séditieux, accusations dont les personnes réunies et arrêtées n'étaient nullement justiciables. Nous quatre fûmes faits prisonniers, et nous allâmes avec le constable chez le Lord Maire, où nous attendîmes plusieurs heures qu'il revint de son service. Lorsqu'il vint, je lui signifiai que nous étions engagés à comparaître cette semaine-là devant les commissaires du roi à Kleffezin, lesquels avaient ordre d'enquêter sur certaines plaintes que nous avions portées au roi contre les dénonciateurs, et je lui montrai une de nos convocations adressées aux dénonciateurs pour qu'ils comparussent aussi devant eux. Et comme aucun d'eux ne se présenta pour témoigner contre nous, conformément au mandat en vertu duquel nous avions été arrêtés, je demandai que nous puissions être relâchés, d'autant plus que nos demeures étaient bien connues, et que nous serions prêts à comparaître sur convocation régulière. Mais le maire ne voulut pas l'accorder, il fallait, dit-il, que nous restions jusqu'à ce que des témoins, c'est-à-dire des dénonciateurs, viennent déposer contre nous. Il viendrait, disait-il, tout à l'heure, mais aucun ne vint, et sous prétexte qu'il devait venir tout à l'heure, nous fûmes retenus, je pense, jusqu'à environ 10 heures du soir. Enfin, le maire vint, nous exigea des garanties, ou que nous soyons assignés par reconnaissance à comparaître jusqu'à la prochaine session de paix et entre-temps à avoir bonne conduite, et il fit aussitôt écrit. Je lui dis que nous étions prêts à promettre de comparaître, si le Seigneur le permettait, mais non à être astreints à une caution de bonne conduite, puisqu'aucune mauvaise conduite n'était prouvée contre nous. Car je concevais qu'exiger une caution de bonne conduite impliquait quelque mauvaise conduite, ce qui ne pouvait être prouvé contre aucun de nous. À quoi le maire répondit, « Vous êtes une bande de fanfarons présomptueux, faites leur mitimus à son greffier. » Toutefois, s'étant retiré un court moment, et le constable ainsi que certains de ses officiers paraissant peu disposés à ce que nous soyons envoyés en prison, après quelques consultations privées, et le constable refusant de se porter garant pour nous poursuivre, ne sachant rien contre nous, le maire prit notre parole de comparaître à la prochaine session sans nous imposer de caution. Nous fûmes donc relâchés pour cette fois. Ayant comparu aux sessions, nos noms ayant été appelés, et personne, ni dénonciateur ni autre, ne venant contre nous, après proclamation faite au tribunal, nous fûmes déchargés, de sorte que les dénonciateurs, qui avaient causé notre arrestation, furent déçus dans leur dessein contre nous. Ils auraient été bien aise nous voir enfermés pour empêcher notre seconde comparution à Kleffezin devant les dix commissaires, afin que nous ne puissions pas davantage révéler leurs méfaits, irrégularités, falsifications et faux serments. Mais le Seigneur notre Dieu, qui se tint auprès de nous, déjoua leur mauvais dessein en cette affaire, si bien que nous eûmes liberté de comparaître de nouveau à Kleffezin, pour faire une découverte publique plus ample de l'injustice et de la méchanceté de ces hommes implacables et infatigables. Leur gain impie, acquis par rapine et pillage sur les paisibles sujets du roi, ne prospéra pas, Bien que longtemps ils pullulassent en ville et à la campagne, ils étaient si extravagants et prodigues que beaucoup d'entre eux ne purent éviter la prison pour dettes, et d'autres étaient prêts à devenir mendiants lorsque leur métier de dénonciation fut arrêté. Pour parvenir à cela, il plut au Seigneur de rendre nos efforts fructueux peu de temps après notre seconde comparution à Kleffezin. Lors de notre seconde réunion, nous ne parcourûmes qu'environ la moitié de nos cas, la seconde partie étant aussi dûme rédigée. Mais il n'y eut pas de réunion supplémentaire pour examiner la seconde partie de nos plaintes contre l'œuvre des dénonciateurs. Les commissaires pensèrent en avoir assez entendu lors des deux réunions précédentes, bien que j'eusse volontiers rencontré de nouveau, ayant de nombreux témoins suffisants pour démasquer les abus des dénonciateurs, qui étaient particulièrement et clairement spécifiés dans la seconde partie comme dans la première, et ils méritent d'être pleinement consignés et divulgués à la postérité, afin qu'on comprenne et qu'on voit quel cours méchant ont été empruntés par les dénonciateurs pour ruiner d'honnêtes gens, et comment de telles personnes viles ont été Puisque nous ne pouvions obtenir une troisième réunion, je persuadai les commissaires de m'accorder une heure ou deux, un après-midi, pour leur montrer la seconde partie de notre affaire avant qu'ils ne rédigent leur rapport au roi. Ils l'accordèrent, et je la leur lus en conséquence. Après cela, je retournai les voir et demandai à voir leur rapport. Ils m'en montrèrent un brouillon, et je vis alors qu'il était très insuffisant et mal rédigé, car au lieu d'exposer clairement les faits, tels qu'ils avaient été prouvés devant eux contre les dénonciateurs pour faux serments, poursuites injustes et cruelles oppressions, etc. Contre nous, les commissaires donnaient leur avis sur des manières plus faciles de nous traiter, comme pour ne pas aller à l'église paroissiale, 12 deniers par dimanche, etc. Je leur dis combien il était impropre qu'ils rapportent cela au roi. C'était plutôt dicter et prescrire au roi quelle peine nous devrions subir, alors que leur tâche était de faire un rapport véridique des faits dont nous nous étions plaints et qui avaient été clairement prouvés et mis en évidence devant eux, contre les procédures injustes et préjudiciables des dénonciateurs. L'un des commissaires me dit avec quelle difficulté ils étaient pressés de rédiger leur rapport, ayant reçu de Londres, de la part d'une ou de plusieurs grandes personnes de l'Église, une mise en garde et une demande de ne rien faire ni rapporter qui puisse mettre les dénonciateurs hors d'état d'agir, tant ils rendaient de grands services à l'Église. Je compris son récit de l'avertissement qui leur avait été envoyé, et j'y pris bonne note. Malgré cela, je plaidai pour que justice nous soit faite dans leur rapport au roi, en ce qui concerne les faits, sur quoi ils furent assez honnêtes pour amender leur rapport et le rendre plus à propos. Nous donnâmes alors au roi une indication supplémentaire de notre affaire, par la lettre suivante qu'il plaise au roi. Puisque le roi eut la bonté de renvoyer notre récente pétition au sujet des procédures des dénonciateurs, à l'enquête de commissaires nommés à Kleffezin, nous, avec beaucoup de nos amis souffrants, avons à deux reprises distinctes clairement prouvé les faits dont nous nous plaignons dans la dite pétition, en présence des dénonciateurs devant lesdits commissaires à leur pleine satisfaction. Et pour cette raison, beaucoup de cas furent omis afin d'éviter la longueur, comme il est indiqué et sous-entendu dans leur rapport, à savoir leur condamnation non exprimée, leur tracasserie par procès envers des juges de paix qui scrupulaient à accorder des mandats contre nous sans que les parties soient convoquées, comme dans le cas du juge Nightingale et du juge Lug. Et depuis la découverte susmentionnée, ils se sont montrés très vindicatifs envers beaucoup d'entre nous, faisant arrêter plusieurs et les faisant assigner aux sessions, et en faisant emprisonner d'autres, comme ils nous l'avaient menacé au moment où leur faux serment fut découvert par les commissaires, les deux Hinton et leurs complices, ainsi que Christopher Smith et John Brown, Arthur Clayton et d'autres dénonciateurs, ont été très actifs et violents contre nous. Depuis lors, plusieurs des dénonciateurs ont été inculpés et condamnés pour parjure, au quartier session pour Londres et pour le Middlesex poursuivis par d'autres personnes. Ainsi, le dit rapport étant considéré, nous espérons que le roi voudra, dans sa sagesse, mettre promptement un terme à ces dénonciateurs et les retenir, eux et le reste de leurs confédérés, de continuer à nous dépouiller. 10 jours du 5e mois, 1686 remis le lendemain à Windsor, au roi, par George Whitehead et Gilbert Lattay, quelques propositions au Lord Chancelier au sujet des dénonciateurs. Puisque le roi, en conseil privé, le 11 juillet 1686, a eu la bonté de renvoyer les matières dont se plaignaient les personnes appelées Quakers, dans leur récente pétition contre les dénonciateurs, ainsi que le rapport établi à ce sujet par deux commissaires nommés, à savoir Richard Graham et Philip Burton, au Lord Grand Chancelier d'Angleterre, afin de corriger les procédures irrégulières de certains juges de paix et dénonciateurs, nous, les dites personnes, proposons humblement ce qui suit. 1. Qu'aucune personne inculpée en vertu du conventicle à acte 22 car 2 pour réunion ne soit condamnée et qu'aucun mandat de saisie ne soit délivré, sans avoir d'abord été convoqué à comparaître devant le juge de paix qui prononce la condamnation, afin de répondre à ses accusateurs ou poursuivants face à face, selon la loi de Dieu et des nations, et selon le cours ordinaire de la justice. 2. Qu'aucune personne ne soit admise à se charger du rôle de dénonciateur ou de poursuivant, sinon des personnes crédibles, et répondant de leurs biens, afin de pouvoir dédommager la partie lésée si elle est indûment ou injustement poursuivie. 3. Que les dénonciateurs nommés dans ledit rapport, faits par les commissaires du roi ci-dessus mentionnés, ayant commis de grands abus, irrégularités et délits, non seulement par manque de connaissance du droit, mais par malhonnêteté, comme par faux serment, et certains d'entre eux par composition et corruption, etc. soient totalement mis hors d'état de poursuivre dorénavant, eux et toute leur bande, serviteurs ou dénonciateurs délégués, confédérés et complices, certains d'entre eux ayant déjà été condamnés pour parjure volontaire, et plusieurs ayant souvent de leur propre chef prêté serment comme témoin dans l'affaire des personnes parjures, devant la cour des quartiers sessions tenue à Guildhall, Londres, le 14 juillet 1686, tentant ainsi de maintenir la même dénonciation dans laquelle leur associé avait été condamné pour par. 4. Que l'intention du dit acte, en employant des dénonciateurs et en prévoyant une récompense pour leur encouragement, étant de découvrir ou de mettre au jour des conventicules, supposés obscurs ou cachés, ainsi que séditieux ou tendant à l'insurrection, ce travail des dénonciateurs est entièrement inutile et sans fondement en ce qui concerne les réunions publiques, connues et constantes du peuple appelé Quakers, qui n'ont jamais tendu à la sédition ou à la rébellion, mais ont toujours été paisibles et inoffensives envers le roi et le gouvernement. 5. Qu'aucun juge de paix ayant prononcé la condamnation ne soit admis à siéger comme juge ou président lors du contrôle ou du jugement des appels, puisque l'appelant, selon la loi, en appel du juge de paix qui a condamné au jugement des autres juges de paix au quartier session. 6. Que les officiers de paix, constables, marguilliers ou administrateurs des pauvres, etc. ne puissent être contraints de se faire dénonciateurs, soit par un juge de paix, soit par une cour de session, devant lesquelles un prétendu contrevenant ou des personnes poursuivies sont ou peuvent être traduits. 7. Qu'aucun juge de paix ne puisse être poursuivi pour n'avoir pas contenté les dénonciateurs ou pour n'avoir pas reçu leurs informations dès lors qu'il n'en est pas satisfait, soit parce qu'ils ne sont pas des personnes dignes de foi, soit parce qu'en sa conscience il ne croit pas qu'ils soient des témoins crédibles, ou pour avoir refusé de leur accorder des mandats sans convoquer les parties poursuivies afin qu'elles leur répondent face à face. 8. Que ni les juges de paix qui prononcent les condamnations, ni les constables ou autres officiers, après saisie effectuée, ne soient autorisés à partager, détourner ou retenir pour les sommes levées, ou quelque partie que ce soit, comme certains l'ont fait, mais que la totalité de la somme levée soit apportée aux sessions, conformément à l'acte, beaucoup ayant souffert de détournement, de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier légalement des appels. 9. Que nul ne soit autorisé à poursuivre comme témoin, ou à prêter serment, pour profit ou gain, ni à recevoir une part des amendes pour avoir juré contre des personnes poursuivies, cela étant un piège par lequel beaucoup ont été tentés de se parjurer, et l'ont fait sur des faits évidents. Sous profession de christianisme, de religion et d'église protestante, et aussi sous prétexte de loi, d'autorité légale, de services rendus à l'église et au roi, etc. Une troupe de misérables dissolus, irréligieuses et dépravées a été encouragée et autorisée à piller, voler, dérober, forcer des maisons, commettre des cambriolages, arracher et faire ravage et dépouille des biens de leurs voisins, comme ces dénonciateurs l'ont fait honteusement, et tout cela pour soutenir l'église protestante, et pour être en cela approuvée ou encouragée par elle, surtout par des prêtres. Quel âge protestant, quelle église peut égaler de telles barbaries et une si cruelle persécution, toutes circonstances considérées, et combien de tels agents sont scandaleux pour l'église et l'État? Ô Église, Église! Vous avez besoin d'être grandement humilié sous la main puissante de Dieu, toutefois au milieu de toutes ces inhumanités, la main du Seigneur notre Dieu nous soutint et nous fit passer au travers, et sa main et sa puissance divine furent avec nous et nous assistèrent, tant dans nos souffrances que dans notre opposition et notre témoignage contre de telles cruautés, et dans nos efforts pour en rendre le roi et le gouvernement sensibles, par quoi il fut enfin porté à compatir à nos extrêmes souffrances, au point de nous apporter du soulagement contre ces dévoreurs. Après que leur métier de dénonciation eut cessé, je me souviens que George Hilton, dénonciateur, vint chez moi, se plaignant qu'il devait être serviteur d'un grand personnage, mais qu'il lui fallait des vêtements ou de l'argent pour en acheter, sur quoi je lui donnai quelque chose, voulant rendre le bien pour le mal, lui qui avait été un adversaire très nuisible contre moi-même et contre beaucoup d'autres de nos amis. Toutefois, j'en fus consolé, car la situation s'était si bien renversée que de nous enlever nos biens par force, ces pauvres. Un grand nombre de nos amis dans beaucoup, voire la plupart des comtés à travers l'Angleterre, furent durement opprimés et beaucoup d'entre eux grandement appauvris, étant mis en charge ou poursuivis à l'échiquier, et des brefs étant émis chaque année contre eux, aux divers shérifs des comtés pour saisir leurs biens et domaines, sous prétexte qu'ils étaient des recusants à raison de 20 livres par mois, et des 2/3 de leurs biens pour leur absence mensuelle de leur église paroissiale ainsi appelée, et sur cette base leurs grains, leur bétail et autres biens. Saisir pendant 11 mois, à 20 livres par mois, ce qui fait 220 livres de déchéance dans cet espace de temps. Les huissiers grossiers, après avoir saisi les biens des fermiers, demeuraient dans leur maison, mangeant et buvant jusqu'à ce que les biens aient été enlevés. Ce genre de souffrance était aussi extrême qu'injuste, considérant que les anciennes lois n'avaient jamais été destinées à être appliquées contre le peuple appelé Quakers, pour que nous souffrions comme recusants papistes ce que nous ne sommes pas, Mais si nous n'avions pas été si scandaleusement calomniés, les persécuteurs n'auraient eu aucun prétexte ni apparence de justification pour une persécution si barbare. À propos de ce cas d'oppression et de persécution, le roi ayant été sollicité, et ému par certains d'entre nous d'ordonner un oliproski, ou un sursis de procédure à l'échiquier, il lui plut de donner instruction au Lord Trésorier et à l'avocat général en ce sens, afin que les brèves de l'échiquier ne soient pas émis contre nos amis à cette occasion. Car ce cas, nous le savions, touchait le roi et ses amis, qui étaient recusants papistes, puisque nous souffrions à leur place, nous qui n'avions jamais été papistes, ni la moindre inclination. Lorsque le consentement du roi eut été obtenu pour le sursis de procédure en cette affaire, la pétition suivante fut rédigée par Roland Vaughan, procureur employé par nous, ayant été informé jusqu'où Gilbert Latet et moi avions poussé nos sollicitations à cet égard, et de l'effet qu'elles avaient eu auprès du roi, à Lawrence, comte de Rochester, lord trésorier d'Angleterre. L'humble pétition, de nous dont les noms sont ci-dessous souscrits, au nom des personnes appelées Quakers, nommées dans la liste ci-jointe, expose que, conformément au renvoi fait par le roi à son avocat général, à la suite d'une pétition qui lui a été récemment présentée par beaucoup de ses sujets souffrants, communément appelés Quakers, le dit avocat général, entre autres choses, à le 20 janvier 1685, fait rapport que les personnes nommées dans la liste ci-jointe sont condamnées pour leur absence mensuelle de l'Église et ont été portées à l'échiquier, et y sont mises en charge de 20 livres par mois. Que, à la lecture du dit rapport, le roi a eu la bonté de signifier son bon plaisir, entre autres choses, que les procédures soient désormais immédiatement suspendues, et qu'aucun bref ne soit plus émis à l'avenir depuis l'échiquier contre les dites personnes nommées dans la dite liste. Que la chose demeure maintenant entre les mains du procureur général, afin qu'il ordonne ou prépare les actes appropriés pour mettre fin aux dites procédures, tant contre les personnes nommées dans la dite liste que contre tous les autres mentionnés dans le dit rapport. Que, d'autant que des poursuites sont à présent susceptibles d'être lancées, au nom de l'échiquier, contre les personnes nommées dans la dite liste avant que le procureur général puisse préparer ou ordonner que soient faits des actes propres à leur apporter soulagement, aux personnes visées dans le dit rapport, conformément à la gracieuse volonté et au bon plaisir du roi. Qu'il plaise donc à son Seigneurie le Lord Trésorier, dans l'intervalle, d'émettre son mandat au greffier du PIP, afin de sursoir aux poursuites contre les personnes nommées dans la dite liste, jusqu'à ce que leur décharge puisse être effectivement achevée, en exécution de la dite gracieuse volonté et du bon plaisir du roi, et les dits requérants feront, etc. Copie du mandat du Lord Trésorier au greffier du PIP. Après mes cordiales salutations, la présente vous autorise et vous enjoint de vous abstenir d'émettre quelque procédure que ce soit contre l'une quelconque des personnes mentionnées dans ces quatre feuillets ci annexés, chaque feuillet étant signé de ma main. Les trois premiers feuillets comportant quatre colonnes de noms, et le quatrième seulement deux, et ce jusqu'au prochain terme. Et si des procédures ont déjà été émises, vous devrez immédiatement les suspendre, et pour ce faire, la présente vous servira de mandat. Whitehall, Chambre du Trésor, 4 mars 1685, à mon très cher ami, le greffier du PIP ou son adjoint. Je m'étais employé, avec beaucoup d'ardeur à obtenir un tel mandat, pour qu'une prompte suspension fût mise aux dites procédures, qui était alors prête à être émise par le dit bureau du PIP, à Gray's Inn. J'eus d'abord à traiter avec l'adjoint du trésorier et le greffier de la chambre du trésor au sujet de leurs exigences très élevées en matière de frais, que nous ne pouvions satisfaire, ce qui me conduisit à me plaindre au lord trésorier lui-même, et il eut la bonté de leur faire notablement réduire leurs demandes ou honoraires, et d'accepter ce que nous pouvions donner. Je me souviens que notre ami Samuel Waldenfield me tint compagnie un jour, à cette occasion. Le mandat me fut donc remis. Roland Vaughan m'accompagna chez les greffiers du PIP, avec notre mandat de sursis à poursuite, la collecte lesquels, voyant une si longue liste d'un très grand nombre de noms annexés au mandat, exigèrent des frais très élevés, s'élevant à plusieurs centaines de livres, auxquels nous ne pouvions en aucune façon parvenir. Ils se montrèrent fort arrogants et hautains envers nous, bien que nous les traitassions civilement, menaçant que si nous ne leur payions pas les frais demandés, les brefs seraient expédiés aux shérifs des divers comtés afin de saisir les biens de nos amis. Et disait-il, soyez-en certains, cela serait exécuté à bon escient, car disait-il, il est probable que ce soit la dernière fois, puisque les poursuites doivent être arrêtées, de sorte que si les brefs partaient alors, il concluait qu'il serait appliqué avec d'autant plus de rigueur. Des menaces de ce genre visaient à nous effrayer pour nous amener à céder à leurs demandes déraisonnables de frais, ce que nous ne voulions ni ne pouvions faire, sur quoi nous nous séparâmes ce jour-là. Fort harassé, affaibli et atteint dans ma santé par le fait d'avoir suivi et travaillé à la délivrance de nos amis dans cette affaire, je tombai soudainement malade, si bien que je fus contraint de rester à la maison quelques jours. Pourtant, le poids des souffrances de nos amis demeurait si lourd sur mon esprit, et mon souci de les voir soulagés, mon sursis aux dites procédures afin qu'elles ne fussent pas davantage émises contre eux, que j'envoyai aussitôt vers nombre d'amis pour leur faire savoir où en était ma situation, et jusqu'où j'avais conduit et fait avancer l'affaire en vue de leur soulagement face aux poursuites de l'échiquier. En particulier, je fis quérir mon compagnon Gilbert Lattay. Il était alors à la campagne, à Kingston, chez sa belle-mère, Anne Fieldé. Il vint promptement à Londres, et moi, l'informant, ainsi que notre cher ami William Mead, de l'état de notre affaire quant au greffier du PIP, de leur refus de sursoir aux poursuites à moins d'obtenir les frais qu'ils exigeaient. Je demandai à Gilbert Lattay et à William Mead d'aller négocier avec ces greffiers et de voir à quoi ils pourraient les amener. Enfin, ils les amenèrent à réduire leurs demandes au point d'accepter les conditions de nos amis et de prendre ce qu'ils offraient, c'est-à-dire environ 60 livres au lieu des nombreuses centaines exigées, non sans se plaindre toutefois qu'on les privait de ce qu'ils estimaient être leurs justes frais et droits. Néanmoins, nos amis firent de leur mieux avec eux, afin d'éviter qu'ils ne se plaignent au roi et n'obtinssent, sur ce fondement, permission d'émettre d'autres procédures contre nos amis dans les comtés. Le sursis aux procédures ainsi obtenues empêcha la ruine de plusieurs centaines de nos amis dans leurs comtés respectifs et sauva de nombreux milliers de livres dans leurs biens. Et j'eus une grande paix et consolation dans le Seigneur, de ce qu'il m'avait rendu, d'une manière ou d'une autre, utile à l'avancement du soulagement de nos amis face à ces lourdes persécutions et oppressions. Béni soit le Seigneur mon Dieu, qui m'a grandement aidé à le servir en aidant son peuple. Une autre affaire de dureté et de souffrance survint à nos amis lors de deux de leurs réunions. L'une au Park, à Southwark, et l'autre au Savoie, dans le Strand, à Westminster, leur maison de réunion leur ayant été enlevée, occupée par des soldats et leurs officiers, et transformée en corps de garde, nos amis étant tenus à l'écart et forcés de se réunir dehors. Le cas plus précisément est le suivant. Vers le troisième mois de 1685, des soldats vinrent et firent d'une partie de la dite maison de réunion du Park un corps de garde, et causèrent de grands ravages et dommages, autour et à l'intérieur, en abattant des palissades, en creusant et en coupant des arbres, les emportant et les brûlant. Ils arrachèrent aussi les lambris et les bancs dans la salle, emportèrent l'une des portes extérieures et beaucoup de châssis de fenêtres, et lorsque les soldats partirent au camp, ils laissèrent la maison ouverte. Alors John Potté, le propriétaire d'alors, y entra de nouveau, remit la porte extérieure et fit quelques autres réparations nécessaires, et fit constater les dommages, lesquels s'élevaient à environ 40 livres. Les soldats revinrent du camp, se réapproprièrent l'endroit et gardèrent leur poste à l'intérieur pendant quelque temps, de la manière suivante. Le 22 octobre 1686, un quartier-maître appartenant au régiment du colonel L vint dans les chambres des locataires de John Potté et demanda d'entrer. L'entrée lui étant refusée, le quartier-maître, avec l'aide de soldats, força l'entrée, traîna leurs biens et chassa trois femmes âgées vers une autre maison. Lorsqu'ils eurent pris possession de notre maison de réunion et des pièces du dessous, ils abattirent les galeries et firent élever un mur de briques en travers de la salle inférieure, avec beaucoup d'autres modifications, comme s'ils entendaient en avoir la possession exclusive et perpétuelle, ayant aménagé une sorte de lieu de prière, ou chapelle de messe à une extrémité séparée du reste par une cloison. Et cela malgré que le propriétaire eût montré à plusieurs reprises son bail et son titre de propriété au colonel et à son quartier-maître. Mais il ne voulut pas y consentir, sachant à quel autre usage le bail était destiné et employé. La salle basse étant notre lieu de réunion, il ne pouvait en bonne conscience en exclure ses amis. Mais étant par force tenu à l'écart de notre maison de réunion et de notre bien, comme rapporté ci-dessus, nous n'avions pas d'autre moyen de la faire restituer qu'en nous adressant au roi. C'était aussi le seul remède pour rétablir notre lieu de réunion du Savoie dans le Strand. Alors mon ami Gilbert Lattay et moi voulûmes aller voir le roi. Nous nous préparâmes à faire valoir notre droit, particulièrement sur notre maison de réunion du Parc susmentionnée. Nous fîmes savoir au roi notre désir de le rencontrer à ce sujet, lui demandant un rendez-vous qu'il nous accorda. Le matin du 1er du 10e mois 1686, Gilbert Lattay et moi nous rendîmes à Whitehall et attendîmes un certain temps dans une pièce basse de la demeure du gardien du cabinet. Après avoir fait transmettre au roi que nous attendions d'être admis, au bout d'un moment il descendit vers nous, accompagné du colonel L. Après lui avoir exposé notre cas, à savoir que notre maison de réunion du Parc nous était retenue, je constatai qu'il avait été mal informé et prévenu, comme si cette maison de réunion et d'autres lui étaient confisquées en vertu de la loi sur les conventicules. Je lui montrai promptement l'erreur, car selon cette loi, les maisons des propriétaires où se tenaient les réunions ne devaient pas être confisquées mais passibles d'amende. La peine était l'amende, non la confiscation des maisons. Et pourtant, comme je lui dis, j'espérais qu'il ne tirerait pas avantage contre nous de cette loi, puisqu'il avait laissé entendre que son avis allait en faveur de la liberté de conscience sans persécution. Il soutint en outre que John Potté avait consenti à céder la maison contre compensation. Ce que le colonel affirma aussi, ayant remis au roi les notes qu'il avait tirées du bail de John, montrant la transmission du titre de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'il fût établi sur John Potté. Mais le roi me dit, comme le colonel l'en avait informé, que John avait acquiescé à se dessaisir de la maison de réunion contre compensation. À tout cela, je répondis que nous en avions discuté en réunion et que nos amis avaient persuadé John de ne pas la vendre. Je dis, John Potter ne nous a jamais paru être dans cet état d'esprit, à savoir la vendre, et c'est réellement une propriété. Lui dit encore que plusieurs de nos maisons de réunion à Londres avaient été saisies, et que la flèche large avait été apposée sur les portes au nom du roi, sous le règne du roi Charlie, et en particulier notre maison de réunion de Gracechurch Street, où le maire encouragea un prêtre de l'église d'Angleterre à lire leur messe ou liturgie et à prêcher, ce qui fut une telle curiosité qu'un prêtre vint lire la prière commune et prêcher dans une réunion de Quakers, que les gens affluèrent en grand nombre et se pressèrent dans les hautes. Le roi sourit lorsque je mentionnais leur messe, parce que je présume qu'il comprenait que le livre de la prière commune en avait été, pour une large part, repris du missel catholique romain. Ayant pris des notes sur le bail de nos amis pour ladite maison de réunion du Parc, je démontrai le titre et plaidai le droit de propriété contre les prétentions ou la revendication du colonel L. Après une discussion assez longue sur cette affaire, le roi donna plusieurs fois cette réponse « Je suis résolu à n'empiéter sur la propriété ou la conscience de personne ». Il nous dit qu'il examinerait plus avant le titre et s'informerait, mais qu'à présent il ne pouvait se passer de l'endroit, à cause de ses gardes. Notre ami Gilbert Lattay, qui était avec moi, parla aussi au roi de la maison de réunion du Savoie, disant que nos amis y avaient été tenus à l'écart de la maison de réunion et forcés par les gardes de se réunir dans une cour froide pendant de nombreuses semaines. Alors Gilbert demanda au roi d'accorder à nos amis la liberté de se réunir deux fois par semaine, car c'était l'hiver et il était difficile pour les personnes âgées de rester dehors dans le froid. Le roi ne refusa pas sa demande, mais jugea bon de la différer quelque temps pour un examen ultérieur. Toutefois, nos efforts, dans la puissance et le conseil de Dieu, produisirent un tel effet sur le roi que, quelques semaines plus tard, il fit restituer nos deux maisons de réunion, du Parc et du Savoie. Avant de nous séparer du roi cette fois-là, je lui parlai des grandes souffrances de nos amis dans le Nottinghamshire et le Leicestershire, dus à Smith l'informateur et à deux ou trois petits juges de paix qui prenaient son parti, et je sollicitai, à deux ou trois reprises, du Lord Sunderland au duc de Newcastle, qu'on mette un terme aux agissements dudit informateur. Le roi accorda librement ma demande et promit à deux ou trois reprises de parler au Lord Sunderland et d'écrire au duc de Newcastle dans le même but. Après quoi l'un des lords du conseil, à ma demande, entreprit d'obtenir promptement une lettre du comte de Sunderland, conformément à la promesse du roi susmentionnée. Nos amis, et John Edge aussi, furent soucieux d'en attendre l'issue, de sorte que, par la puissance et l'aide du Seigneur notre Dieu dans nos démarches, on obtint un arrêt général de ces dévorateurs persécuteurs, les informateurs, au grand réconfort et soulagement de nos amis souffrant dans tout le royaume. Je fus grandement consolé de les servir au mieux de mes capacités pour leur délivrance lorsque le Seigneur ouvrit une voie à de tels efforts, et j'en eus une grande paix. Et bien que je fus souvent très fatigué, et parfois affaibli dans l'homme extérieur, le Seigneur ranima mon esprit et renouvela mes forces, et me donna des arguments appropriés à faire valoir dans ce service auprès de l'autorité. En tout cela, je confesse humblement et loue sa puissance divine et sa bonté, gloire à son nom à jamais. Étant profondément désireux de rendre visite au roi, afin d'encourager la bonne œuvre qu'il avait commencé et déclarée, quant à la liberté de conscience en matière de culte religieux, et de lui faire entendre les bons effets de sa déclaration en ce sens envers les dicides, et aussi de l'informer de certains renseignements que j'avais reçus de Leeds dans le Yorkshire, au sujet de souffrances qui pesaient encore sur quelques-uns de nos amis là-bas, Gilbert Lattay et moi fûmes admis en présence du roi le 14 du 10e mois 1006. Le roi parut heureux de nous voir, et la substance de notre entretien fut la suivante, George Whitehead. Nous sommes heureux de voir le roi, et lui souhaitons de tout cœur santé et bonheur, ainsi qu'un règne heureux et prospère, et que son gouvernement lui soit aisé à tous égards, c'est-à-dire à lui-même et au peuple, King. I thank you, and for your part, I believe well of you and your friend, and that you do wish me well, George Whitehead. Je souhaitais me présenter au roi il y a quelque temps, mais un long voyage cet été, dans les régions du nord de l'Angleterre, et une maladie survenue depuis, m'en ont empêché. Nous avons chaque jour sujet de bénir Dieu pour la miséricorde dont nous jouissons sous le roi, celui-ci ayant été rendu, en cela, un instrument dans la main de Dieu, et de prier chaque jour pour la préservation du roi. Dans ce récent voyage, je suis allé jusqu'au Cumberland et dans d'autres parties du nord de l'Angleterre, et j'y constate les bons effets de la déclaration du roi en faveur de la liberté de conscience, et combien elle est appréciée de toutes les bonnes gens, de tous ceux qui sont sobres, modérés et raisonnables. Roi, elle reçoit assurément l'assentiment de tous les bons chrétiens, George Whitehead. Je constate que des personnes de jugement et de qualité louent la prudence et la conduite du roi en cette matière, et que beaucoup de familles innocentes, qui ont été cruellement accablées par les persécutions et les duretés sous lesquelles elles ont longtemps été, ont reçu un tel soulagement par la clémence et la déclaration du roi, qu'elles trouvent chaque jour sujet de prier pour leur roi, et peuvent à bon droit lui appliquer les paroles de ce juste homme Job en l'espèce quant à la justice de sa conduite. Tu as brisé les mâchoires des méchants, et tu as arraché la bénédiction de ceux qui étaient prêts à périr sous leur dureté est venue sur moi. Et encore, que par votre déclaration en faveur de la liberté de conscience, vous avez rendu soumission au grand Dieu et lui avez donné ce qui lui est dû en cela, à savoir que Dieu puisse régner et exercer sa souveraineté dans les consciences des hommes dont il a le droit souverain de disposer. Et quand le Seigneur règne, que la terre se réjouisse, et quand les bêtes mauvaises de proie cessent dans le pays, alors cette terre donnera son accroissement, ainsi que les saints prophètes de Dieu en ont rendu témoignage. Roi, c'est très vrai, George Whitehead, que la liberté de conscience ainsi déclarée ou promise soit défendue ou maintenue, et ses bons effets apparaîtront de plus en plus, roi. Je suis résolu à la maintenir tant que je vivrai, et à la rendre aussi ferme qu'une mania charta, et plus ferme si possible, afin qu'elle demeure au bénéfice des âges futurs, et que la postérité n'ait pas motif de la modifier, George Whitehead. Lorsque le roi voudra bien convoquer un parlement, nous souhaitons de tout cœur qu'il soit tel qu'il puisse concourir à la clémence du roi, selon sa déclaration en faveur de la liberté de conscience, et la confirmer par une loi. En référence à un échange précédent et pour ce qui nous concerne, j'espère que nous contribuerons par nos efforts autant que l'argument et la raison pourront aller, ou pourront prévaloir à les persuader de la confirmer de lui donner la sanction de la loi, et d'abroger ses lois pénales et persécutrices. Ces lois persécutrices, telles que les lois sur les conventicules et d'autres, visant à contraindre les personnes par des peines, contre leur conscience, leur foi et leur conviction, même en matière de culte, tendent par conséquent à en faire des hypocrites envers Dieu Tout-Puissant, ce à quoi aucune âme sincère ne peut consentir. Roi, vous avez le droit d'élire des membres du Parlement. Je voudrais que vos amis prennent garde de ne pas donner leur voix à ceux qui sont contre la liberté de conscience. George Whitehead. Il nous importe à tous d'y prendre garde. Il est certain qu'il ne peut y avoir de Parlement libre, au terme d'une élection générale et libre, tant que les serments de suprématie et d'allégeance, et les tests exigeant une conformité, sont établis comme qualification de tous les membres du Parlement. Car de telles qualifications n'admettent comme membres du Parlement que ceux qui sont des hommes d'Église stricts quant à la conformité. Alors qu'un Parlement mixte, ou plus également choisi, est le plus à même de considérer tous les intérêts et d'établir la liberté de conscience, ce que ces lois pénales et persécutrices ne permettent pas. Roi, ces lois et ces qualifications sont contraires à la propriété et la détruisent. Avec d'autres propos, amples et explicatifs de sa pensée, au même effet, dont je ne me souviens pas aussi clairement, mais indiquant en substance que ces limitations étaient aussi contraires à l'intérêt du roi et à la prérogative de la couronne, autant qu'à la propriété du peuple. George Whitehead. Par parlement mixte, j'entendais composé de dicides et ou de tels hommes d'église qui sont contre la persécution, comme le grand jury aux assises d'Hertford, qui avait arrêté toutes les dénonciations contre les dicides pour 20 livres par mois, quelque temps avant la publication de la déclaration du roi en faveur de la liberté de conscience. Ce grand jury mixte me parut, pensais-je, un exemple approprié dans ce cas relatif à un parlement libre. Roi, vous savez qu'à l'époque où j'étais duc d'York, combien beaucoup étaient envieux contre moi, et combien monstrueusement ils me représentaient dans leurs pamphlets, afin de me rendre odieux à la nation, et quel successeur dangereux je serais. Mais, en matière de christianisme, je leur pardonne librement à tous, George Whitehead. C'est en effet un grand point de christianisme et de charité que de pardonner librement les injures, et c'est généreux et noble, et je suis véritablement heureux d'entendre cela de la bouche du roi. Il est vrai que le duc d'York était une personne si redoutable dans l'esprit de beaucoup, qu'il craignait grandement et était jaloux de sa succession. Mais maintenant, depuis qu'il est parvenu à la couronne, il a donné de si claires preuves de sa clémence et de sa bienveillance envers le peuple, que cela a convaincu beaucoup de leur erreur en cette matière, et leur a donné motif d'abandonner leurs anciennes craintes et jalousies de ce genre. Roi, j'ai toujours été du même avis au sujet de la liberté de conscience, que celui que j'ai maintenant déclaré publiquement. Je me souviens qu'il y a environ 20 ans, ou davantage, j'étais à Tunbridge, bien que je n'aie jamais bu les eaux. Il y avait un certain Owen, John Owen, un dicide, qui avait envie de me parler, mais il était ou semblait un peu timide ou craintif de venir à moi, jusqu'à ce que quelqu'un m'en informât. Alors je lui donnai la liberté de venir me parler, et je lui dis mon avis, qui était en faveur de la liberté de conscience, comme je l'ai maintenant déclaré. George Whitehead. J'en ai entendu qu'autant il y a très longtemps, de la bouche d'Edmund Wall, récemment décédé, il s'exprima dans le même sens au sujet du fait que le duc d'York était, depuis longtemps, de cette opinion en faveur de la liberté de conscience, Gilbert Lattay. Ce que le roi avait signifié en secret, il l'a maintenant déclaré ouvertement pour la consolation du cœur de plusieurs milliers, qui bénissent véritablement Dieu pour les bontés du roi et lui rendent de tout cœur leurs remerciements. et pour toutes les bontés que vous nous avez montrées, que le Seigneur vous récompense et vous rende au centuple dans votre propre sein, roi. Je vous remercie de tout cœur, Gilbert Lattay. Nous nous souvenons du temps où nous étions à Windsor pour assister feu le roi. C'était une époque de grande persécution, où nous risquions d'être mis en pièces par nos persécuteurs, et combien vous fûtes bon envers nous. Et nous pouvons dire en vérité que nous n'étions pas en paix dans notre esprit avant d'avoir vu le visage du roi, afin de reconnaître les bontés que nous avons autrefois reçues de lui. Et de plus, je me souviens que, lorsque nous avons été pour la dernière fois avec le roi, comme je ne suis pas disposé à me présenter souvent en présence du roi, de peur de paraître trop importun, je formulais cette demande, que les pauvres amis de Kingston puissent de nouveau jouir de leur maison de réunion, dont on les avait longtemps tenus éloignés et qu'ils étaient forcés de se réunir dans la rue. Et pareillement, que le roi nous permît de nous réunir de nouveau dans notre maison de réunion du Savoie, où je demeure. Alors le roi eut la bonté de nous promettre qu'il parlerait à ce Edward Evelyn, alors magistrat de Kingston, afin que nos amis recouvrent leur maison de réunion, ce qui leur fut accordé. Et le roi a, récemment, eu la bonté de nous rendre la possession de la maison de réunion du Savoie. Je m'y réunis moi-même pour le culte et, au nom des autres amis de Westminster, je présente au roi notre humble et sincère reconnaissance et nos remerciements pour cela, George Whitehead. J'ai un cas particulier venu de Leeds, dans le Yorkshire, que nos amis ont désiré que je porte à la connaissance du roi. Le voici. Récemment, les persécutions des magistrats de Leeds ont été plus sévères envers nos amis là-bas que dans tout le reste du Yorkshire. À Leeds, ils les ont emprisonnés à plusieurs reprises et ont tenté de les bannir hors du pays, les poursuivant en vue du bannissement, sur la base des statuts de la Trait, E et 14, E année du défunt roi, qui concernent l'emprisonnement et la transportation. Ils ont aussi saisi leurs biens pour avoir tenu des réunions religieuses et conservent encore les biens d'une personne ou de plusieurs, non vendus, et ne veulent pas restituer les biens à leurs propriétaires respectifs lorsque nos amis le demandent. C'est pourquoi nous prions le roi de demander au Lord Président d'écrire deux ou trois lignes au maire et aux échevins de Leeds pour les faire restituer les biens à leurs propriétaires respectifs. Et là-dessus George Whitehead remit le cas par écrit au roi. « Roi, je le ferai, je parlerai à Lord Sunderland pour qu'il écrive comme vous l'avez demandé. » Ce qu'il fit en conséquence, et dès le lendemain un ordre fut délivré pour la restitution des biens. « George Whitehead, nous reconnaissons avec gratitude la bonté du roi en cette affaire. » Gilbert Lattay, nous prions Dieu de récompenser le roi dans son sein pour toutes ses bontés et de lui accorder, si telle est sa volonté, une longue vie et un règne heureux ici, avec la couronne de gloire immortelle dans l'au-delà. George Whitehead, nous vous remercions sincèrement. Roi, je vous remercie de tout cœur. Copie de l'ordre susdit. Whitehall, 14 décembre 1687. Messieurs, le roi ayant été informé que certains biens appartenant à John Whale et à d'autres hommes de Leeds, qui ont été saisis et enlevés à ceux-ci à cause de leur culte religieux, demeurent invendus entre les mains de John Tood, qui était constable au moment de la saisie, ou entre les mains d'autres personnes, et l'intention de Sa Majesté étant que tous ses sujets reçoivent le plein bénéfice de sa déclaration pour la liberté de conscience, Sa Majesté me commande de vous signifier son bon plaise. Je suis, messieurs, votre ami et serviteur affectionné, Sunderland, P. Suscription, pour M., le maire et les échevins de Leeds, dans le comté d'York. Estimant qu'il est de notre devoir chrétien d'être assidu dans nos sollicitations pour notre liberté de conscience et de religion, et pour l'apaisement et le soulagement de nos amis phares à leurs grandes épreuves, sous de longues et sévères persécutions pour cette même cause, lorsque le Seigneur notre Dieu en a frayé la voie et a ouvert une porte d'accès au roi et au gouvernement, nous étions d'autant plus tenus de saisir cette providence de Dieu et d'en tirer le meilleur parti possible, avec son assistance qu'il nous accorda gracieusement et gratuitement. Et puisque le roi accorda à nos amis soulagement et liberté face à leurs cruelles persécutions, emprisonnement, amendes, confiscations, saisies et ravages, nous ne pouvions faire moins, en matière de civilité et de gratitude, que de lui retourner nos propres remerciements, ainsi que ceux de nos amis de tout cœur. Et aussi, comme chrétiens, nous sommes tenus de prier pour nos ennemis et persécuteurs. À plus forte raison sommes-nous obligés de le faire pour nos amis et pour ceux qui nous montrent bonté et compassion lorsque nous sommes sous persécution et affliction. Quelques passages principaux de la déclaration du roi Jacques à tous ses chers sujets pour la liberté de conscience. Donné en sa cour à Whitehall, le 4 avril 1687, dans la troisième année de son règne, puisqu'il a plu à Dieu Tout-Puissant, non seulement de nous conduire à la couronne impériale de ses royaumes à travers les plus grandes difficultés, mais encore de nous conserver, par une providence plus qu'ordinaire, sur le trône de nos royaux ancêtres. Il n'est rien désormais que nous désirions si ardemment que d'établir nos. Ces deux choses, que les hommes estiment le plus, seront toujours conservées dans ces royaumes durant notre règne sur eux, comme les voies les plus sûres de leur paix et de notre gloire. Nous ne pouvons que souhaiter de tout cœur, comme on le croira aisément, que tous les peuples de nos États fussent membres de l'Église catholique, Toutefois, nous remercions humblement Dieu Tout-Puissant que tel est, et a été de longue date notre constante pensée et opinion, que nous avons en maintes occasions déclaré, à savoir que la conscience ne doit pas être contrainte, ni les personnes forcées en matière de religion proprement dite. Cela a toujours été directement contraire à notre inclination. Comme nous pensons que c'est contraire à l'intérêt du gouvernement, qu'elle détruit en ruinant le commerce, en dépeuplant les pays et en décourageant les étrangers, et enfin, qu'elle n'a jamais atteint la fin pour laquelle on y recourait. Et nous en sommes d'autant plus confirmés par les réflexions que nous avons faites sur la conduite des quatre derniers règnes. Car après tous les efforts fréquents et pressants qui furent employés dans chacun d'eux pour réduire ce royaume à une conformité exacte en religion, il est visible que le succès n'a pas répondu au dessein et que la difficulté est invincible. Nous avons donc, par notre soin et affection princier envers tous nos chers sujets, afin qu'ils puissent vivre à l'aise et en tranquillité, et pour l'accroissement du commerce et l'encouragement des étrangers, jugé bon, en vertu de notre prérogative royale, de publier la présente déclaration d'indulgence, ne doutant pas du concours de nos deux chambres du Parlement, lorsque nous jugerons opportun qu'elles se réunissent. Tout d'abord, nous déclarons que nous protégerons et maintiendrons notre archevêque, nos évêques et notre clergé, ainsi que tous nos autres sujets de l'Église d'Angleterre, dans le libre exercice de leur religion, tel qu'établi par la loi, et dans la paisible et pleine jouissance de toutes leurs possessions, sans aucune molestation ni trouble de quelque nature que ce soit. Et que toutes et toutes sortes de lois pénales, en matière ecclésiastique, pour ne pas se rendre à l'Église, ou pour toute autre non-conformité à la religion établie, soient immédiatement suspendues. Et afin que par la liberté ainsi accordée, la paix et la sûreté de notre gouvernement ne soient pas mises en péril dans sa mise en pratique, nous avons jugé bon, et par les présentes enjoignons et commandons strictement à tous nos chers sujets que, de même que nous leur donnons librement la permission de se réunir et de servir Dieu selon leur propre voie et manière, soit dans des maisons particulières, soit dans des lieux expressément loués ou bâtis à cet effet, ils prennent un soin particulier que rien ne soit prêché ni enseigné. Et qu'ils signifient et fassent connaître à l'un ou plusieurs des plus proches juges de paix quel lieu ou quelles lieux ils mettent à part pour ces usages. Et afin que tous nos sujets puissent jouir de leurs assemblées religieuses avec plus grande assurance et protection, nous avons jugé requis, et commandons par les présentes qu'aucun trouble, de quelque nature que ce soit, ne leur soit causé ni donné, sous peine de notre déplaisir, et que les contrevenants soient poursuivis avec la plus grande sévérité, etc. Avec beaucoup plus dans ladite déclaration, concernant la liberté de conscience, à l'égard de certains serments, peines, pénalités, confiscations et incapacités, etc. En conclusion, le roi déclara ainsi, « Et bien que la liberté et l'assurance que nous avons ainsi données, touchant la religion et les biens, puissent suffire à dissiper dans l'esprit de nos chers sujets toute crainte et jalousie relative à l'une ou à l'autre, nous avons néanmoins jugé bon de déclarer plus avant que nous les maintiendrons dans toutes leurs propriétés et possessions, tant des terres d'églis et d'abaille, que de toutes autres terres et propriétés quelles qu'elles soient. » Considérant les circonstances difficiles dans lesquelles se trouvait le roi, étant réputé de l'Église catholique romaine, ainsi dite ou déclarée papiste, sa déclaration en faveur de la liberté de conscience, si contraire à la religion et à la pratique de cette Église persécutrice, est d'autant plus remarquable. Et il a paru que le Seigneur avait ouvert son entendement à cela, au-dessus des prêtres et autres de cette religion et de cette Église dont le principe, la pratique et le principal soutien sont la contrainte, la force et la persécution. 1. Quant à ceux de sa propre communion, au sujet de leur liberté, il semblait toutefois y avoir aussi, de sa part, une conscience en l'affaire. Surtout puisqu'il déclara si solennellement que depuis longtemps telle avait été sa pensée et son opinion, à savoir que la conscience ne doit pas être contrainte, ni les personnes forcées en matière de religion proprement dite. 2. Quant à sa promesse aux évêques et aux clergés de l'Église d'Angleterre, il sembla en cela prudent et politique, pour les apaiser et les tirer de la crainte de perdre leurs grands revenus, dîmes, offrandes et obventions, etc. De même que pour apaiser les grands et riches hommes intéressés dans les terres d'abbaye, les dîmes appropriées et les grands revenus qui en résultent, etc. 3. Quant à nous, peuple communément appelé Quakers, et à nos ministres, n'ayant point de tels revenus que dîmes, gages ou salaires pour prêcher à perdre, notre évangile étant gratuit, nous n'étions pas aussi effrayés par la papauté ou par un prince et un clergé papiste que ceux qui jouissent de ces grands revenus que l'Église et la prêtrise papiste revendiquent et seraient bien aise de venir occuper et posséder. Il est intéressant que Whitehead attribue la principale crainte du papisme à une perte de revenus pour l'Église d'Angleterre. Suivez l'argent 4. Le roi ayant souvent déclaré avec sérieux que la liberté de conscience, affranchie de la force et de la persécution, était son principe et sa persuasion, et nous qui avions longtemps souffert profondément, y participant, surtout dans la dernière partie de son règne, nous avions grande raison d'être d'autant plus tranquilles et reconnaissants d'avoir reçu quelque soulagement de ces extrêmes persécutions et duretés sous lesquelles nous avions longtemps souffert. 5. Toutefois, la déclaration susmentionnée du roi n'ayant pas la sanction d'une loi du Parlement pour en assurer la confirmation et la continuation, nous ne pensions pas que notre liberté fût ainsi garantie, pas plus qu'elle ne l'avait été sous le règne de son frère, le roi Charles I, mais qu'elle demeurait incertaine et précaire, comme auparavant, lorsque nous n'avions que les belles promesses et déclarations de ce roi, qui ne durèrent que peu de temps et furent bientôt rendues nulles par le Parlement et par lui-même, et que beaucoup de persécuteurs furent. Il y avait eu une lutte permanente entre les droits du roi et ceux du Parlement en matière de gouvernement. Ni la proclamation de tolérance religieuse du roi Charles, ni celle du roi Jacques n'étaient soutenues par le Parlement, et leurs effets ne duraient que jusqu'à ce que le Parlement ait rejeté le projet de loi présenté pour donner force de loi aux proclamations. Ce rejet était double, 1. La jalousie à l'égard des droits de gouvernement, et 2. Une crainte largement répandue que la tolérance religieuse n'ouvre la porte au contrôle du Parlement et du pays par la papauté, ce qui signifierait la perte de revenus et de biens pour l'Église d'Angleterre suivez l'argent. 6. Enfin, quant à l'abdication ou à la déposition du roi Jacques I du trône lors de la Révolution, il ne m'appartient pas, et cela ne me concerne pas, de traiter des causes ou des circonstances particulières, ce sont des affaires d'État et de gouvernement. Suite, le but de ce site web est de montrer comment se libérer du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.